Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
L'islam est-il réellement une menace pour la France ? C'est à cette interrogation que notre pays est aujourd'hui contraint de répondre, alors même qu'il accueille en son sein 3,7 millions de musulmans. Un chiffre global pour un islam pluriel, mais au-delà de cette diversité culturelle, se pose néanmoins la question de la nature même du Coran, où État et religion sont indissociables. On comprend du coup en quoi cette vision s'inscrit en porte-à-faux de la laïcité dont notre pays célébrera l'année prochaine le 100e anniversaire. Quelle attitude la France doit-elle adopter face à un islam largement décrié sur le plan international ? La solution réside-t-elle, comme le propose Nicolas Sarkozy, dans le développement d'un islam spécifique à la France ? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre en compagnie de nos deux invités. Alain Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, docteur en histoire, et vous êtes connu en particulier pour vos travaux sur le monde russe et ses dérives totalitaires, travaux que vous orientez depuis peu vers l'histoire religieuse.
Oui, l'histoire religieuse, l'histoire de l'art. Depuis 1990, je ne m'occupe plus spécifiquement de la Russie.
C'est ce qui me semblait. À vos côtés, Pascal Le Potrema, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste de géopolitique et des conflits. Je ne dresserai pas ici la liste des endroits prestigieux dans lesquels vous enseignez, mais vous avez surtout publié l'année dernière un ouvrage intitulé « La politique musulmane de la France au XXe siècle, de l'Hexagone aux terres d'islam, espoir, réussite et échec » aux éditions Maisonneuve et La Rose. Alors avant de parler de l'islam qui signifie en arabe soumission à Dieu, commençons par évoquer le contexte historique dans lequel le Coran, texte de référence de la religion musulmane, a vu le jour.
Ben ça c'est encore
une... Alain Besançon.
Il y a deux états historiques assez différents. L'état classique tel qu'il est exposé dans les livres classiques d'histoire musulmane font apparaître Mahomet en Arabie, dans une zone Médine, La Mecque, etc., dans une zone pleine de juifs et de chrétiens de divers sectes, à un moment très précis. Et là, il aurait été l'auteur de cette révélation que lui a dictée l'ange Gabriel dans un état de transe particulière. Et ce texte, remanié un peu plus tard en Syrie, sous les califes successeurs de Mahomet, est le Coran. Bon, alors, ça c'est l'état, le classique, disons, des études historiques actuelles. Mais il y a actuellement, je crois, des nouveaux courants qui essayent de dépiauter le Coran, comme on a dépiauté, disons, la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et d'essayer de repérer les strates possibles, comment il s'est composé, etc., et pendant combien de temps. On a compliqué la question par rapport à l'époque, disons, Mecque, Médine, enfin, etc. Alors, on se demande même si le Coran n'est pas, en somme, une sorte de livre d'hymne qui aurait été composé dans des milieux syriens de la suite, disons, des courants baptistes qui se seraient développés en Syrie après le christianisme, dans les marges du christianisme ou du judaïsme en formation. Et selon ces auteurs, le rôle de Mahomet serait plus restreint, plus complexe qu'on ne le disait auparavant. Voilà ce que je sais, mais peut-être mon confrère, le pôtre, connaît plus de choses là-dessus.
Non, juste quelques éléments en complément. Effectivement, quand on voit un petit peu le cadre de la péninsule arabique, au moment donc de l'arrivée de Mahomet, c'est vrai que c'est une zone finalement de carrefour, d'échanges commerciaux et obligatoirement culturels. Vous avez donc des relations qui se font d'ailleurs de façon, c'est toujours ce qui m'a un petit peu surpris, de façon pacifique. et respectueuse, chrétiens, juifs, arabes polythéistes. Et il y a une sorte d'influence finalement du monothéisme, donc qui transparaît bien sûr dans le Coran, révélé à Mahomet, qui pendant toute sa vie finalement va lutter contre les polythéistes, hein, de la Mecque, de Médine, avant de pouvoir s'imposer. Et puis c'est vrai qu'après ce relais qui va se faire par la voie orale, par le biais de ses proches, de ses fidèles, donc après 30 ans à peu près de transmission orale, vous allez avoir effectivement, comme le disait M. Besançon, une démarche de transcription, d'écriture sous les premiers califes. Et puis, bon, et bien à partir de là, l'aventure est lancée, l'aventure s'écrit.
Un petit point quand même, les Arabes étaient en partie christianisés, mais pas christianisés dans l'orthodoxie melkite, dans l'orthodoxie de Byzance. Ils étaient plutôt baptisés dans l'église monophysite. Et c'est une église qui était persécutée, qui était donc rejetée en marge de l'Empire byzantin. Mais enfin, ces Arabes avaient une certaine connaissance du judaïsme et du christianisme. Et ce qui est intéressant, c'est que Mahomet prétend qu'il ne connaissait pas les Écritures, il prétend qu'il était illettré, et que le Coran lui a donc été dicté d'en haut, dans la mer du livre. Comme vous savez, le Coran n'est pas un texte inspiré, comme la Bible est un texte...
révélé.
Non, pas révélé, c'est le verbe divin lui-même qui s'exprime à travers l'organe de Mahomet, mais sans que Mahomet y soit pour quelque chose, n'est-ce pas ? C'est une pure et simple dictée. Le Coran, comme disent la théologie musulmane, il est incréé, c'est-à-dire qu'il est comme Dieu lui-même. Ça, c'est une chose tout à fait particulière. Alors, ça, évidemment, on peut difficilement croire, étant donné qu'on trouve dans le Coran, disons, des histoires tirées de la Bible, mais qui apparaissent très déformées, il est quand même très difficile de croire que le Coran soit tombé de la bouche de Mahomet, et de la bouche de Gabriel, et de la bouche même de Dieu. On pense qu'il y a eu quand même une certaine connaissance, une certaine imprégnation de la Bible. Mais les histoires bibliques qui sont dans le Coran sont extrêmement déformées par rapport à la Bible. Par exemple, vous n'y trouvez pas les grands prophètes, vous y trouvez par exemple des petits prophètes. La chronologie est assez étrange. Ibrahim est un musulman qui a fondé le culte de la Mecque, qui a nourri les Arabes dans une époque de famine. Tout ça, qui a fondé le culte d'Aqaba. Ce n'est pas dans la Bible, tout ça. Et puis Jésus, qui apparaît aussi dans le Coran, Jésus naît sous le palmier d'une femme qui est la sœur d'Aaron. L'Aaron, dans la Bible, c'est le frère de Moïse, donc il y a un décalage de la sœur de Moïse. Donc c'est le décalage d'une douzaine de siècles. C'est donc le temps, ensemble, n'existe pas. C'est tout à fait curieux. Voilà.
Il y a également Moussa qui est Moïse, je crois.
Moussa et Moïse, Daoud et David, et Issa et Jésus. Mais ils apparaissent, mais on ne les reconnaît pas. Par contre, vous avez des histoires, comme l'histoire de Jonas, etc. Mais enfin, ce qui est important, c'est que pour le Coran, toutes les figures qui y apparaissent, les figures bibliques, que ce soit Ibrahim et Daoud ou Issa, toutes sont musulmanes. Toutes sont musulmanes, toutes proclament le Coran. Et Mahomet se présente comme le sceau des prophètes, celui qui a restitué un message originel qui a été donné au premier homme, à Adam, et qui a été déformé ensuite par les juifs et les chrétiens. C'est pour ça que leur Bible n'est pas un document qui fait autorité au pays d'Islam, il n'est pas imprimé, enfin, mais voilà, enfin, c'est un message donc que Mahomet a restitué dans son authentique pureté.
Alors, quel est le message central dispensé par le Coran ?
Il y en a plusieurs.
Pascal Potremain.
on retient déjà la volonté d'immortaliser finalement, en quelque sorte, les enseignements qui ont été donc rapportés par Mahomet aux Arabes eux-mêmes, des enseignements de Allah, ou conformément donc à la tradition, la sunna, en relation avec les hadiths, en fait, tout ce qui est censé rapporter les faits et gestes de Mahomet et de ses proches, avec toujours cette implication, finalement, entre le religieux et le politique. Et c'est ce qui va traverser les siècles, même si, effectivement, au gré des dynasties, vous avez certaines sourates qui vont être ajoutées. Bon, mais en tout cas, le discours, enfin le propos, le message originel se veut, dans la tradition musulmane, inviolé, intact et transmis de siècle en siècle.
Oui, oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que la partie éthique est un peu est plus floue que dans la Bible. Vous n'avez pas dans le Coran, disons, les 10 commandements, par exemple. Mm-hmm. Ça, ils n'y sont pas. Et le rapport à Dieu est... Alors là, radicalement différent de ce qu'il est dans la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, puisque dans l'Ancien Testament, le rapport à Dieu passe à travers une alliance.
Hein. L'alliance perpétuelle.
C'est une alliance qui est nouée entre Abraham et Dieu, entre Moïse et son peuple d'une part, et Dieu, entre l'ensemble des humains et par le Christ à Dieu, mais enfin, dans tous les cas, dans le judaïsme et dans le christianisme, Dieu est un partenaire. Dieu est un partenaire qui s'engage affectivement. Alors non, pas du tout dans l'islam, Dieu est radicalement séparé. Il a consenti à donner une loi que les hommes doivent respecter, qui est intouchable, puisqu'elle elle est la parole de Dieu elle-même, n'est-ce pas ? C'est pas une question d'aspiration. Mais ce Dieu est un être tout à fait lointain, qui est à la fois très lointain et très présent, puisqu'il détermine tout, il est tout puissant, il est là, sa présence remplit toute la nature, et même au point de vaporiser un peu les lois naturelles, l'ordre de la nature. Mais le musulman ne peut faire que se soumettre à cette loi sans qu'il y ait un partenariat. Par exemple, cette notion d'amour de Dieu, qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans un soufisme, c'est-à-dire dans une mystique musulmane, mais déviante, et qui n'a pas eu toujours, disons, des conditions favorables en islam. Cette notion d'amour de Dieu n'est pas dans l'islam. Mmh. Au contraire, c'est quelque chose d'un peu sacrilège. Mmh. Que ce soit l'amour de Dieu pour les hommes ou l'amour de l'homme pour le Dieu, non, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que l'homme n'est pas une image de Dieu, comme on dit dans la Bible, que l'image de Dieu telle qu'on l'a pratiqué les chrétiens, eh bien, pour les musulmans, c'est de l'idolâtrie. Hein. Et ça, c'est des choses tout à fait insupportables. Alors, ils reconnaissent aux juifs d'avoir été monothéistes. Ils n'acceptent pas la loi de Moïse, encore une fois, ni l'enseignement prophétique, enfin des grands prophètes. Ils reprochent aux chrétiens d'avoir donné à Dieu des associateurs, des associés. Hein, on leur reproche d'être des associateurs. Et les associés, ben c'est vaguement une idée de la Trinité. Pour eux, la Trinité, c'est Dieu, Jésus et la Vierge. Bon, ce n'est pas la vision chrétienne de la Trinité. Il est extrêmement difficile de dire à un musulman que les chrétiens sont des monothéistes aussi. D'ailleurs, il faut bien dire que c'est une notion très difficile. Voilà.
Très bien. Alors en France, lorsque nous parlons d'islam, nous faisons souvent l'amalgame entre musulmans et arabes. Et pourtant, tous les arabes ne sont pas musulmans. Réciproquement, tous les musulmans ne sont pas forcément arabes.
Bien sûr.
Alain Besançon.
Vous avez des grosses masses d'islam qui ne sont pas arabes.
Enfin, alors justement, est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Écoutez, vous avez le monde arabe qui parle arabe. Hein, c'est-à-dire qui va à peu près des frontières de l'Iran jusqu'à l'extrémité occidentale du Maghreb, jusqu'au Maroc. Au nord, vous avez la zone turque. La zone turque, elle est immense. Elle est immense puisque c'est toute la Turquie actuelle, plus l'équivalent de la Turquie actuelle en Asie centrale, et on parle turc jusqu'en Sibérie, mais tout ce monde-là est musulman. Vous avez le monde iranien, qui est un monde à part, très puissant, assez différent, schismatique par rapport à l'islam sunnite. Vous avez l'islam hindou, qui est considérable, puisque l'Inde, je crois, est le pays où il y a le plus de musulmans avec l'Indonésie.
Avec l'Indonésie.
Mmh. Avec l'Indonésie. Mmh. Et puis là, vous avez en Indonésie, converti assez récemment, converti à partir du XVIe siècle, vous avez là 200 millions d'habitants qui sont musulmans. Donc vous voyez que c'est un monde qui va du Maroc à l'extrémité de l'Indonésie, ça fait un très grand monde.
Mmh. Et ça, c'est,
oui, parce qu'elle est le potre main.
L'expansion de l'islam à travers l'histoire s'est faite aussi au gré justement des caravanes commerciales, encore une fois, à travers l'Afrique du Nord, et puis aussi au gré des guerres de conquête, parce qu'il y en a eu. Donc évidemment, du coup, on a une communauté musulmane qui n'est pas faite que d'Arabes, mais de différentes populations, différentes ethnies réparties sur divers continents. Voilà, en quelques mots, ce qu'on peut retenir.
D'ailleurs,
le Pakistan, c'est-à-dire cette partie de l'Inde qui a été tellement islamisée qu'elle n'a pas pu vivre dans le monde hindou, qu'on a dû détacher du monde hindou. Ça fait, entre le Bangladesh et le Pakistan, ça fait encore 200 millions d'habitants. C'est énorme.
Et comme vous le disiez, Pascal Lepotremain, il y a également toute une communauté africaine de la partie sahélienne, dont on parle assez peu en France, sans compter qu'au sein même du Maghreb, les Berbères et les Kabyles ne sont pas considérés comme arabes. Nous allons juste faire une très courte pause et nous nous retrouvons dans quelques minutes.
Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie.
Suite de notre émission éclairage consacrée aujourd'hui à l'islam en France, nous reprenons donc les débats avec nos deux invités, Alain Besançon et Pascal Lepotremain. Nous avions évoqué quelques minutes avant d'interrompre cette émission le rapport entre musulmans et arabes, et j'avais également envie de vous poser la question suivante. À votre avis, pourquoi en France faisons-nous l'amalgame entre musulmans et arabes ?
Alors ça, c'est vrai que déjà, ne serait-ce
Pascal
que sur
un
plan physique, on associe une certaine couleur de peau, une certaine couleur de cheveux avec le Proche et le Moyen-Orient. Et on a tendance, c'est vrai, à généraliser à tort, bien entendu. Et vous parliez justement avant la pause des Berbères et des Kabyles. Quand on fait le point, certains, bien sûr, étaient moins islamisés que les Arabes des plaines, justement, dans ces zones montagneuses. C'est pour ça, d'ailleurs, que la France, dans son époque coloniale, s'est appuyée sur ces minorités. Et bien, certains sont finalement relativement blancs de peau, et c'est ce qui fait d'ailleurs leur particularité. Mais on a un tort, effectivement, par méconnaissance, par manque de culture aussi, dans l'opinion publique, il faut le reconnaître. On généralise, on globalise. C'est ce qui conduit à des erreurs.
J'imagine statistiquement, je pense que l'islam en France est quand même à grande majorité maghrébin.
Oui, à 80%.
À 80% maghrébin. Que parmi ces maghrébins, il doit y avoir une assez forte proportion de kabyles, soit marocains, soit algériens. Peut-être les deux tiers. Ou la moitié.
Ah, oui,
une forte proportion. Oui, oui. Oui, oui.
Voilà. Mm-hmm. Et puis vous avez alors des apports assez nouveaux, hors de noir, dans l'Afrique subsaharienne, surtout de la zone des déserts, enfin, Sahara, etc. Sénégal, etc. Et puis, plus récemment, Turc, Pakistanais, etc. Bon,
on aurait même plus d'ailleurs de musulmans turcs que de musulmans tunisiens en France.
Ah oui, oui, je crois que les Turcs se sont beaucoup arrivés.
Est-ce que ça n'est pas justement dû à l'histoire particulière qu'entretient la France avec le Maghreb et notamment l'Algérie, parce que...
Oui, c'est vrai que dans son histoire coloniale, l'Algérie a toujours été considérée comme le prolongement de la métropole. Il y avait des départements. Et il y a eu donc pendant le XXe siècle, au gré des deux guerres mondiales notamment, eh bien, une demande de main-d'œuvre économique pour travailler dans les usines pendant l'effort de guerre, mais aussi par le biais d'une main-d'œuvre, je dirais, de troupes, Les troupes de tirailleurs marocains, tunisiens, algériens qui sont venus se battre à nos côtés pour libérer la France. Donc il y a des liens qui se sont établis, qui sont créés. Il y a une population qui s'est implantée. D'ailleurs, la première communauté musulmane en France est essentiellement kabyle algérienne dès les années 1911-1912. Et bien sûr, avec le temps, ça ne va pas cesser de s'accroître, surtout pendant la période dite des 30 glorieuses où on avait besoin de main-d'œuvre. Et puis après, a éclaté un peu au grand jour cette incapacité finalement sur le long terme de la France à avoir su gérer cette population ou ces populations musulmanes.
Mmh. Alain Besançon.
Oh ben, de petits points. Je vois que la France n'a pas toujours considéré l'Afrique du Nord comme un prolongement.
L'Algérie seulement.
Là, le Maroc et la Tunisie n'ont jamais trouvé
c'était des protectorats.
L'Algérie, Napoléon III voulait faire un royaume arabe et c'était certainement une très bonne solution d'ailleurs. Mais non, c'est la République effectivement qui a voulu intégrer complètement l'Algérie. D'abord parce qu'elle voulait avoir des soldats. Elle voulait avoir des soldats, les employés. Et puis vous avez une colonisation qui avait été dirigée avec la faible démographie de la France. Ça n'a pas été un très grand succès. Mais enfin, il y avait quand même des Français, essentiellement des Espagnols, il faut bien le dire, mais des Espagnols francisés en Algérie. Le deuxième point, c'est que gérer une population musulmane, c'est pas du tout comme gérer une population chrétienne, comme étaient les Espagnols, les Portugais, les Italiens, qui se sont intégrés sans aucune difficulté en France. Il y a eu quelques frottements, en particulier pour les Italiens dans les années 1900, mais regardez les Portugais, ils sont arrivés à énormément, plus d'un million en quelques années, ça n'a pas fait le moindre souci, ça n'a pas posé le moindre problème. Les Vietnamiens aussi, les Vietnamiens se fondent tout de suite dans la population, trouvent du travail, etc. Avec ces nouvelles populations alors musulmanes, il y a deux problèmes. D'abord, elles sont peu qualifiées pour la plupart. Par conséquent, elles ont beaucoup de mal à entrer dans une économie moderne parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Et d'ailleurs, ils ne viennent plus tellement pour travailler, mais ils viennent pour bénéficier, disons, des soins. Et comment je le reprocherais, d'ailleurs, c'est tout à fait... Si j'étais dans une case, du Sénégal, je ferais tout pour envoyer mes enfants, ma femme en France. Je ne veux pas le reprocher. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont musulmans. Et alors ça, l'histoire est quand même formelle. Les populations musulmanes ne se fondent pas dans la population d'alentour.
Et pourquoi, Alain Besançon?
Écoutez, ça, c'est un fait. C'est un simple fait. Je n'ai pas d'explication directe. Mais le fait est, si vous voulez, que le XXe siècle a vu une purgation des zones mixtes. Par exemple, il y avait beaucoup de chrétiens en Turquie, en Égypte, etc. Ils sont tous partis. Il y avait des musulmans et en Grèce, dans les Balkans, ils sont tous partis. Il y avait des Français en Afrique du Nord, ils sont tous partis. Donc, il y a la mixité est une chose extraordinairement difficile à réaliser. Historiquement, ça n'a jamais duré longtemps. Ça n'a jamais duré longtemps et ça s'est toujours terminé, soit de façon plus ou moins pacifique, soit de façon très brutale, comme en Espagne ou comme en Turquie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par l'expulsion du corps étranger.
Bon, Pascal Le Potremain.
Je serais plus tenté de vous dire que s'il n'y a pas eu vraiment harmonie, c'était plus pour des raisons politiques que religieuses, parce qu'on pourrait multiplier les exemples. Si on veut parler des musulmans des Balkans, on sait très bien qu'il y a heurts avec, par exemple, la conception de retour à la Grande Serbie des orthodoxes serbes. Bon, déjà, c'est incompatible. Mais c'est politique, c'est parfois même des clichés dans une espèce d'idéal collectif qui ont la vie dure, puisqu'on, du coup, au XXe, XXIe siècle, vous avez des Serbes qui, ou même d'ailleurs des Albanais, ou des musulmans croates, ou bosniaques, pardon, qui se réfèrent à des situations remontant à l'époque médiévale. Donc c'est plus dans une espèce de cliché collectif, hein. Mais il y a quand même des réalités où vous avez des gens qui vivent avec leur religion, les uns musulmans, d'autres catholiques ou même orthodoxes, et qui s'entendent très bien. En Algérie, si les musulmans ont finalement fini par repousser et rejeter l'administration française, c'était pas non pas parce qu'ils refusaient stricto sensu la présence française, mais tout simplement parce qu'ils avaient le sentiment, pour une large partie d'entre eux, d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. Ça, c'est un gros problème récurrent pendant toutes les 60 premières années du XXe siècle. Et ça, ça a joué évidemment sur la décolonisation. Mmh. Donc je crois qu'il faut, bien sûr, et puis même, je dirais, le troisième point aussi, c'est qu'au sein de l'islam, vous avez diverses tendances
qui sont libérales, qui sont radicales.
Et vous avez des gens qui vivent leur foi comme n'importe quel catholique en métropole, en France, pardon, dans l'Hexagone, mais en ayant complètement embrassé le style de vie occidental. Mmh. Bon, donc pour eux, le problème ne se pose plus. Mmh. Donc oui. C'est assez complexe, finalement, hein, comme situation.
Oui. Alain Besançon.
Vous avez raison, il y a eu des moments de coexistence, mais ça a toujours été dans le cadre d'un empire. Hein. Dans l'Empire ottoman, qui était un vaste empire, qui allait de la Perse jusqu'à l'Algérie, hein, il y avait le système du millet, c'est-à-dire chaque communauté s'organisait, avait ses propres juges, réglait ses propres conflits à l'intérieur, etc. Alors évidemment, c'était sous la domination du sultan. Hein, c'était sous la domination de l'Empire ottoman. C'est-à-dire que, comme disait Voltaire, le premier qui fait du tumulte est empalé, les autres se tiennent tranquilles. Mmh. Bon, mais ça n'a pas empêché, si vous voulez, ça n'a pas empêché l'Empire ottoman de gérer assez bien par ce système du millet les diverses communautés. Mais alors, quand, à partir du moment où l'Empire se fragmente, et à partir du moment où se commence à se développer l'idée nationale, alors là, les hétérogénéités apparaissent et deviennent brûlantes, et c'est ainsi que les Turcs, par exemple, entre 1915 et 1922, ont exterminé les Arméniens, qui étaient sur leur territoire, et ont expulsé les Grecs. Hein. Bon, c'est ainsi que l'Algérie, à partir du moment où elle a cessé de se considérer comme dans l'Empire français, ou qu'elle a vu qu'elle ne pouvait pas tenir dans l'Empire français et en même temps développer ses aspirations nationales, eh bien, à ce moment-là, ça s'est terminé par une guerre et une expulsion des Français. Voilà.
Bien, enfin, nous reviendrons sur cette tranche d'histoire, en tout cas pour revenir à une époque un peu plus contemporaine, plus récente. Au sein même de la communauté musulmane en France, deux courants religieux se distinguent. On parle des chiites, vous l'avez souligné tout à l'heure, et des sunnites. Quelles sont les différences dogmatiques entre ces deux courants religieux? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, quelle est la mouvance la plus représentée en France aujourd'hui?
Alors,
Pascal Le Potremain.
Quand on parle du chiisme, on peut se référer au, pour être bref,
très bref.
au quatrième calife, Ali, qui était en fait à la fois neveu et gendre de Mahomet, qui sera assassiné. Et finalement, si vous voulez, les chiites resteront avec l'idée que c'était lui et sa succession qui devait ouvrir une nouvelle, non pas dynastie, mais une nouvelle lignée de calife. Chose qui ne sera pas connue par ceux qui se rattachent à la sunna, la tradition, avec les Korejites, etc., les trois premiers califes. Donc du coup, vous avez en fait une cassure, une rupture qui remonte au 7e siècle. Et ce qui, d'ailleurs, déçoit, enfin, exaspère, il faut bien le dire, un certain nombre de musulmans entre guillemets libéraux qui vivent avec leur temps et qui se disent qu'il serait justement ce serait le moment de passer outre cette rupture vraiment au premier temps du Moyen-Âge pour vivre au XXIe siècle sa foi, dans une véritable harmonie.
Alain Besançon.
Pour répondre à votre question directement, l'immense majorité des musulmans français sont sunnites. Alors qu'est-ce que c'est que le chiisme? C'est ce que vient de dire Pascal Le Potremain, mais c'est également une réaction persane à l'islam. Vous savez que la Perse était un immense bloc, c'est une grande civilisation qui est extrêmement ancienne. Ils ont été conquis un peu par surprise par l'islam, hein, et ils ont développé un autre islam à l'intérieur de l'islam. Qu'est-ce que c'est que le chiisme? Ben, c'est la zone persane, disons, du monde, je simplifie, mais c'est la zone persane du monde islamique. Alors, qu'est-ce qu'il caractérise? Je crois que c'est essentiellement parce qu'au lieu du système très simple, très transparent, et très antignostique du sunnisme, c'est une religion extrêmement compliquée, une religion à mystère, une religion avec des systèmes métaphysiques extrêmement compliqués, avec des secrets, avec des doctrines ésotériques. C'est donc quelque chose de tout à fait, sur le plan du vécu, tout à fait différent de l'islam sunnite. Et probablement, je dirais, de notre point de vue, beaucoup plus complexe, beaucoup plus raffiné et permettant des choses que nous aimons bien, par exemple la miniature persane. Et bien ça, c'est, ça fait partie typiquement, n'est-ce pas, du monde chiite.
Alors sinon, c'est vrai qu'effectivement,
Pascal Le Potremain,
les sunnites sont majoritaires au Maghreb et par définition, la communauté musulmane de France compte essentiellement des sunnites. Mmh, mmh,
mmh. Et les Turcs sont sunnites aussi. Mmh. Voilà.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, on a entendu parler d'un autre courant qu'on appelle le salafisme, qui est lié à l'Arabie saoudite. Est-ce que ce courant a une réalité en France et a-t-il beaucoup d'adeptes ?
Alors c'est justement
la
grande difficulté aujourd'hui et le grand souci finalement du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, des services de renseignement, c'est de décrypter les réseaux strictement salafistes qui se rattachent donc en fait à une tendance, enfin qui se rattachent directement au wahhabisme, donc qui est une lecture rigoriste, quasi extrémiste même, de l'islam, en ne laissant aucune part à un certain libéralisme. Donc, c'est un mouvement intransigeant qui est taxé aussi d'intolérance tant par les Occidentaux que par les musulmans qui se veulent plus libéraux, justement, et qui pose problème parce que, à travers ce salafisme, si vous voulez, c'est une atteinte qui s'opère à l'encontre de tous ces musulmans dits libéraux qui vivent leur foi en second lieu et d'abord, avant tout, leur citoyenneté. Mmh. Donc il y a un problème de fond, et puis d'autant plus parce que eh bien, les réseaux déclinants donc des frères musulmans nés en 1928 en Égypte et qui se rattachent à toutes ces doctrines wahhabites salafistes, tous ces réseaux qui existent tant en France qu'en Europe gravitent, créent une nébuleuse, créent une situation d'insécurité, passent aussi à l'action par le biais de terroristes, d'attentats, qui sont dans les esprits en permanence, et d'autant plus donc à l'esprit de nos gouvernements, de nos gouvernants, pardon. Mmh. Donc il y a un véritable enjeu, tant pour faire en sorte que l'islam demeure une religion crédible, et un enjeu aussi pour l'Occident, pour essayer de passer outre cette situation d'insécurité.
Mmh. Les renseignements généraux avaient fait une étude en 2003 en recensant, je crois, 32 nouveaux centres de culte musulmans, dont 15 étaient en fait aux mains des salafistes. Enfin, c'est ce qu'ils disaient, ça a été publié dans Le Monde. Nous allons faire une seconde coupure et nous vous retrouvons dans quelques minutes.
Bonjour, c'est Christelle Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde, l'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts, votre agenda culturel sur Canal Académie.
Merci d'être toujours avec nous pour cette émission éclairage consacrée à l'islam en France. Nous parlions à l'instant du salafisme lié au wahhabisme d'Arabie Saoudite. Alain Besançon.
C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une petite part d'utopie dans l'attitude du gouvernement français, ou plus exactement une tentative d'appliquer sur l'islam des catégories qui lui sont familières. Quelle était la grande catégorie française ? C'était le passé catholique, avec un monopole catholique de la religion. Puis, à partir de la Révolution française, c'est devenu la religion de la majorité des Français. Ça n'a plus été la religion de la France. Puis, au cours d'un processus qui a été très, très long et assez tourmenté, on est arrivé à la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire l'Église catholique qui l'a acceptée, se trouve donc séparée de l'État. Et je pense que nos ministres français ont essayé d'appliquer à l'islam ce schéma. Une église qui ne me prétend plus au monopole, qui n'est plus vraiment, qui ne fait que reculer dans la société, dont les pratiquants sont de moins en moins nombreux, un culte qui devient de plus en plus intérieur, de plus en plus personnel, et une laïcité imposée, mais parfaitement acceptée par le partenaire principal qui était des catholiques. Ben, je ne suis pas sûr que ça marche pour l'islam. Pas parce que c'est une religion conquérante, parce que c'est une religion auquel le principe de laïcité est tout à fait étranger, tout à fait extérieur à sa tradition, et qui actuellement se trouve très en contact avec des islams non français, puisque les imams viennent
nous allons
d'Égypte,
en parler.
De l'Afrique du Nord, etc., et sont nommés tantôt par leur propre mouvement, par leur propre
on va en
système
parler,
interne,
justement.
Et ça c'est assez compliqué.
Alors vous me tendez une perche justement, puisque la pratique de l'islam se fait dans le cadre d'organisations qui sont à la fois chargées d'encadrer ce culte musulman en France. Est-ce que vous pourriez nous en parler? On connaît l'UOIF, mais on connaît également la mosquée de Paris, Pascal Lepautrement.
L'UOIF est source de polémique parce que on sait qu'au sein de l'UOIF, vous avez plusieurs tendances, dont certaines qui sont foncièrement salafistes, enfin wahhabites, radicales. Vous avez aussi la Fédération nationale des musulmans de France qui est plus proche du Maroc. Vous avez la Grande Mosquée de Paris avec donc Boubaker qui là représente finalement les musulmans algériens. Vous avez aussi le Tablik qui est plus proche des musulmans pakistanais. Vous avez le courant salafiste. Vous avez aussi la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, hein, sachant que les musulmans d'Afrique noire doivent être à peu près 170 000 à peu près en France aujourd'hui. Et puis vous avez les comités, enfin du moins un comité de coordination de toutes les organisations musulmanes turques en France aussi. Alors la grande difficulté, c'est pour en fait le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, le grand défi qui se pose d'abord, qui s'est posé à M. Sarkozy, puis maintenant à M. de Villepin, c'est finalement une course contre la montre, compte tenu de la conjoncture géopolitique, la situation internationale, pour essayer d'éradiquer, n'ayons pas peur du mot, les filières les plus extrémistes de l'islam de France, pour faire en sorte que justement, il n'y ait plus un agrégat de structures financées par l'Arabie Saoudite, par des groupements quasi prosélytes et même terroristes, pour qu'on ait un islam qui soit plus représentatif d'une communauté française qui doit être sereine. Alors, ça paraît peut-être utopiste, ça paraît peut-être du domaine du rêve, mais en tout cas, on voit très bien qu'il y a une volonté gouvernementale de tendre vers cet objectif, vers ce résultat.
C'est très gentil, mais vouloir éradiquer telle tendance d'une religion ou dépend de telle autre, c'est inévitablement sortir des principes laïques qui laissent les gens croire ce qu'ils veulent sans s'en mêler. Et ça devient compliqué. Par exemple, quand il s'agit de construire des lieux de culte, est-ce qu'il faut qu'ils soient construits avec de l'argent étranger ou est-ce qu'il faut qu'ils soient construits avec l'argent de la République? Si ils sont construits avec l'argent de la République, ça pose problème, parce que quand même
les
églises actuellement sont construites par le du culte.
On va y venir justement. Donc effectivement, comme vous le disiez, oui, Pascal Lepautrement.
Je voulais juste rajouter, là, c'est plus une question de sécurité d'État. Là, il n'est pas vraiment question de laïcité sous cet angle-là.
Bien sûr.
C'est plutôt éviter qu'il y ait finalement ce que l'on appelle l'islam de cave, des réseaux quasi clandestins qui ont des caches d'armes, comme c'est le cas en banlieue parisienne, qui ont des comptes bancaires occultés et occultes pour financer des réseaux des réseaux islamistes qui peuvent à la fois poser des bombes dans n'importe quelle capitale européenne, mais surtout financer des jeunes pour qu'ils puissent partir dans tel camp de formation ou se battre en Tchétchénie comme ça a été le cas, ou en Afghanistan, et puis qui après reviennent avec un savoir-faire quasi-militaire ou paramilitaire en métropole, complètement galvanisé, fanatisé. C'est ça le gros souci.
Alors comme vous le disiez, Pascal Lepautrement, effectivement en 2002, Nicolas Sarkozy, à la suite de Pierre Joxe et de Jean-Pierre Chevènement, a créé donc le Conseil français du culte musulman. Il y aura donc d'autres élections en avril prochain. Aujourd'hui, ce conseil est dirigé par Dalil Boubaker, qui est le recteur de la mosquée de Paris. Ce conseil a entre autres pour mission de former les imams et de construire les mosquées mosquée. Et c'est vrai qu'il y a fort à parier que si ce choix politique a été fait, c'était pour contrôler justement les choses et non pas pour laïciser l'islam. Est-ce que vous pensez que ces dispositions sont réellement un garde-fou à l'intégrisme ?
Bon alors,
Pascal Lepautremain.
Parler de laïcisation de l'islam, bon, c'est pas tout à fait comme ça que je crois qu'il faut l'entendre. C'est plutôt essayer d'encourager un islam. Alors, ça paraît choquant pour les traditionnalistes et les rigoristes musulmans, mais une sorte d'islam moderne qui puisse s'intégrer dans un nouveau paysage interreligieux. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça, historiquement, on ne peut pas le contester, même si certains essaient de s'y attacher à cette idée, mais l'Europe a une tradition chrétienne, pluriséculaire. Bien. Nous sommes au XXIe siècle, eh bien, il y a de nouvelles religions qui se présentent. Qu'elles soient monothéistes, qu'elles soient dérivées de l'animisme. Bon, en tout cas, l'islam est une réalité dans notre pays, c'est la volonté d'expression religieuse d'une partie de la population. Bon, d'ailleurs, vous avez très justement précisé le chiffre de 3 067 000 musulmans, ce qui est nettement plus proche de la réalité que des 5 ou 6 millions qu'on entend trop souvent. Bon, en tout cas, il faut les prendre en compte, tout en sachant que malheureusement, et j'aborde la deuxième partie de votre question, au sein de ce Conseil français du culte musulman, eh bien, on sent bien qu'il y a un désordre, qu'il y a des tensions diverses, parce que finalement, là encore, ce sont les hommes qui ternissent la chose, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont plus ou moins ambitieux, qui aspirent à une certaine autorité, une reconnaissance, et qui jalousent le poste du président actuel, à tel point que Ali Boubacar ne cesse de menacer de démissionner, ce qui lasse d'ailleurs un peu l'Élysée, mais bon, on essaie de trouver une solution.
Je crois que son homologue de la mosquée de Lyon a démissionné, notamment. Oui. Et il me semblait également, il y avait un point quand même essentiel, c'est que je crois qu'aux élections donc, de 2002, les représentants qui ont été élus sont plutôt issus des milieux très conservateurs de l'islam.
C'est ça la grande difficulté. Et aujourd'hui, vous avez même l'UOIF qui essaie de court-circuiter, finalement, dans une certaine mesure, le Conseil français de culte musulman, en disant que ce conseil n'est pas efficace, qu'il ne s'est pas réuni depuis plusieurs mois. Et du coup, organise un conseil régional du culte musulman qui réunirait des associations régionales et à la tête duquel ce conseil régional, qui représenterait donc toutes les structures de France, l'UOIF envisage de placer un de ses pions. Grande difficulté, grand risque. Et ça, c'est un peu le problème aussi de ce que l'on appelle la stratégie des étapes, chère aux frères musulmans, c'est-à-dire procédons par étapes, donnons-nous un crédit, un label de qualité, de légitimité, de crédibilité démocratique, en usant finalement de ce que l'on offre les démocraties occidentales, c'est-à-dire la liberté d'expression, etc. Donc, ils savent très bien jouer là-dessus, et cette stratégie des étapes fait que petit à petit, l'UOIF essaie d'être reconnue comme une structure strictement libérale. Elle ne l'est pas pleinement. Donc, il appartient à son président, et dans ce cas, s'il veut vraiment être considéré comme le représentant d'une structure foncièrement libérale, eh bien de faire le tri dans ses rangs.
Mmh. Oui, Alain Besançon.
N'est-ce pas, l'expérience de la France, c'est que d'une certaine façon, la démocratie dissout la religion. Hein, c'est ce qui s'est passé au 19e et 20e siècle. Vous avez un énorme recul de la religion chrétienne, au point qu'actuellement, beaucoup de chrétiens ne voient plus tellement la différence entre leur religion et la religion musulmane, et que pour un musulman qui devient chrétien, il y a 100, 200 chrétiens, ou vaguement chrétiens, ou issus de chrétiens, qui deviennent musulmans. Alors donc, vous avez dans cette démocratie, vous avez donc cette religion musulmane dont nous ne savons pas si elle va subir également la dissolution démocratique ou si, au contraire, elle va traverser ça comme un courant extrêmement fort et dynamique. En tout cas, on parle souvent de l'islam des banlieues, mais il y a un autre islam qui n'est pas moins islamique d'ailleurs, mais qui est tout à fait différent, c'est l'islam de désintégré, c'est-à-dire l'islam des chirurgiens, des profs de maths, des médecins que nous voyons actuellement dans les hôpitaux, et qui bientôt, à la faveur de leur succès scolaire et de leurs efforts mérités, vont former en France une société complète, mais musulmane. Alors nous ne savons pas du tout comment elle va évoluer. Prenez le cas des juifs au XIXe siècle, qui allait d'un commun accord vers l'assimilation la plus complète, au point que quelquefois ils oubliaient le judaïsme, pour au XXe siècle, surtout dans la fin du XXe siècle, s'en ressouvenir et l'affirmer comme une partie essentielle de leur identité.
Oui, mais il y avait un contexte.
Nous ne savons pas si cette courbe en nu, n'est-ce pas, ne va pas se produire avec cet islam moderne qui forme maintenant une portion importante de la communauté française.
Alain Besançon, en ce qui concerne l'assimilation des Juifs, il se trouve qu'il y a eu quand même la Seconde Guerre mondiale qui a largement eu un impact sur cette communauté en particulier et qui a dû réviser l'implication qu'elle avait et le désir qu'elle avait de s'impliquer dans une société française qui lui était ouverte de toute manière. Oui. Je voudrais tout de même revenir à la question des imams, s'il vous plaît, en France, et notamment poser la question du recrutement. Aujourd'hui, on sait que les jeunes musulmans français ne souhaitent pas embrasser une carrière d'imam et que se pose la question de leur recrutement à l'international. Quel problème cela risque-t-il de nous poser à terme ?
Au niveau des imams, si vous voulez, la difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est que la plupart sont formés à l'étranger. Soit au Maroc, dans le meilleur des cas, ou en Turquie, ou en Arabie Saoudite. Il y a quoi, 1,5-2% d'imams strictement français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment le ministère de l'Intérieur réfléchit à l'idée de promouvoir des instituts de formation des imams, ce qui pose bien sûr des problèmes dans la logique de la laïcité française. Mais si vous permettez, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous disiez, monsieur Besançon, quand vous parliez des conversions, en fait, finalement, à l'islam. Moi, je retiens des chiffres. En France, on dit souvent que pratiquement 62% de la population française se considère comme catholique. Mais, paradoxalement, un sondage qui avait été fait par Lacroix en août 2003 précisait que 80% des personnes interrogées estimaient n'avoir aucune démarche spirituelle. La question que je me pose, finalement, c'est que, à travers 100 ans de laïcité, depuis la séparation des églises et de l'État, l'église catholique s'est quand même retranchée. L'Église catholique, vous l'avez dit tout à l'heure, a accepté cette séparation des Églises et de l'État, mais on peut bien dire quand même que quand on se remet dans le contexte des premières années, la première décennie des années 1900, ça a été quand même très douloureux pour les catholiques pratiquants. Et en fait, de manière globale, on a bien senti que les catholiques se sont recroquevillés par le jeu de certains médias, par le jeu d'une vision culturelle où on confondait laïcité et esprit athée. Or, on voit arriver les musulmans qui, eux, finalement, affichent fièrement leur foi. Et finalement, par certaines lectures de sourates, de versets, l'approche plus ou moins mystique, la poésie, la littérature d'obédience et de culture musulmane, séduisent obligatoirement des gens qui sont en mal de reconnaissance. Parce que, comme le disait M. Sarkozy, c'est vrai que nous sommes des hommes et des femmes. Nous vivons, nous mourons. Et beaucoup de gens recherchent un sens à leur vie. Et la religion fait partie de cette logique où on se pose des questions sur sa vie d'homme et de femme.
Suite de notre émission éclairage consacré à l'islam en France, Alain Besançon, vous souhaitiez réagir sur ce que venait de dire monsieur Lepotremain.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Seulement, nous avons actuellement deux religions qui ont un sens très fort en ce moment d'elles-mêmes, c'est l'islam et le judaïsme. Hein. Or, ce sont deux religions très très fortement représentées, plus fortement représentées en France que dans n'importe quelle autre pays d'Europe. puisqu'il y a la plus forte population juive d'Europe et la plus forte population musulmane d'Europe. Or, il se trouve malheureusement qu'au Moyen-Orient, il y a un conflit. Et ça n'arrange pas les choses, évidemment.
Bien, comme vous le savez sans doute, Nicolas Sarkozy vient de publier un nouveau livre qui s'appelle « La République, les religions et l'espérance » aux éditions du CERF. Le candidat à la présidence de l'UMP y développe notamment l'idée d'un assouplissement de la loi sur la laïcité afin que l'État finance la construction des mosquées comme la formation des imams. Qu'en pensez-vous ?
Déjà,
Pascal Le Potremain.
Saluons le courage de cet homme politique. Que ce soit bien clair, je parle ici en tant qu'historien et en tant que citoyen français. Je suis quand même heureux, sur un plan personnel, de voir qu'un homme politique ose, dans notre pays, qui est fier de ses idéaux républicains et laïcs, dire que finalement, la vie, quelle qu'elle soit, n'est pas obligatoirement indissociable de la religion. Et qu'il faut prendre à part entière la dimension de l'islam en France, qu'on le veuille ou non. Bien. Alors à partir de là, le débat est ouvert. Il n'a pas enfoncé le clou en disant ben, ce sera comme cela qu'il faut le faire et pas autrement. Il soulève le débat. Alors on sait très bien qu'en France, c'est quelque chose de sulfureux, la religion, les religions, toucher à la laïcité, toucher à la loi de la séparation des églises et de l'État. Et on voit très bien que finalement, cette loi est plus ou moins connue. Et que certains disent que telle qu'elle existe, on peut très bien rebondir, lui faire subir une sorte de petit toilettage sans changer les fondements même de notre régime. Bon, on est dans cette logique-là aujourd'hui. Sachant quand même, pour revenir sur ce que disait M. Besançon, les populations musulmanes et juives, ou du moins les citoyens juifs et musulmans français, donc, ne représentent pas, par rapport à la population totale, un pourcentage énorme. On estime à peu près à 2%, 2,5% les citoyens juifs.
500 000 personnes en France.
À peu près 5-6% pour les musulmans. Mmh. Bon. Il y a tout à fait possibilité à vivre en parfaite harmonie, et je dirais même, je le vois à travers les classes que l'on peut avoir même dans l'enseignement supérieur ou dans les amphis, on peut discuter de religion en ayant des gens qui viennent finalement de tous les continents avec toutes les religions. Et ce qui montre bien d'ailleurs qu'il faut, à mon sens aussi, de toutes nos forces et toutes nos convictions, réinvestir, réengager, réintégrer l'enseignement, la connaissance des différentes religions dans les écoles.
Oui, ben, tout ça, c'est des vœux. Je ne peux que m'associer à ces vœux. Je ne sais pas s'ils sont réalistes. Ça, c'est l'expérience qui le prouvera. Moi, je connais des cas où des professeurs juifs ne peuvent plus enseigner dans l'enseignement secondaire. Hein? Et j'ai un ami qui enseigne à la Sorbonne et qui forme des professeurs. Il dit à ses élèves juifs, écoutez, tâchez de trouver un autre métier parce que vous risquez gros si vous voulez avoir une vie tranquille. Alors, ce n'est pas une situation normale, une situation que nous déplorons tous. Bon, Sarkozy, ben, il emploie des moyens. Je trouve que ces moyens sont un peu trop inspirés d'expériences anciennes qui peut-être ne sont plus pertinentes. Mais je forme des vues, évidemment, pour que tout s'arrange. Je ne vois pas trop comment.
En tout cas, Nicolas Sarkozy se fait l'écho surtout du problème des lieux de culte pour les musulmans, puisque ils sont nombreux en fait à déplorer le manque de mosquées manifestement en France. Est-ce que vous pensez que construire davantage de mosquées suffirait à diminuer l'impact éventuellement des thèses fondamentalistes ?
Alors, concernant les lieux de prière, on a répertorié officiellement 1500 lieux de prière. Il est fort à parier qu'il y ait des dizaines d'autres ou des centaines d'autres lieux quasi clandestins. La difficulté, c'est comment financer ces constructions de mosquées. Est-ce que l'on doit s'appuyer sur les seuls citoyens musulmans ? Beaucoup de musulmans d'ailleurs eux-mêmes le souhaitent, sans avoir besoin d'un appui de l'État. Ou est-ce que effectivement l'État, comme ce qui se fait en Alsace-Moselle, doit cofinancer la construction de la mosquée ? Des mosquées. C'est un sujet qui porte à débat au niveau national, qui nécessiterait presque une consultation de l'opinion publique, des citoyens dans l'ensemble. Ce n'est pas aux hommes politiques en tant que tels de trancher. Il faut, dans ce cas, si vraiment on veut passer à une étape supérieure, il faudra certainement solliciter l'avis de l'opinion publique.
Alain Besançon.
Écoutez, j'en sais rien. On verra comment ce que donne l'expérience. Il y a en tout cas une revendication qui n'a pas de sens, c'est de demander la réciprocité aux pays musulmans. Demander, par exemple, qu'on puisse construire des églises en Arabie Saoudite. Ça ne se fera pas et il n'est pas question que ça se fasse. Les Arabes, du moins l'Arabie Saoudite, n'offre pas la réciprocité. De même, en Turquie, en Égypte, etc., le prosélytisme chrétien, même le culte chrétien, est quand même très gêné. Alors, l'organiser en France, écoutez, je veux bien, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'églises qui se vident, qui n'ont plus de fidèles, mais quand les églises seront transformées en mosquées, je ne sais pas quelle sera la tête de la population française, on verra.
Alors, si vous êtes aussi dubitatif, et je souhaiterais quand même terminer en fait cette émission avec une autre question. Selon vous, quelles conditions l'islam de France, tel que la qualifie Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire spécifique à ce pays, devrait-il remplir pour cohabiter harmonieusement avec la République laïque ?
Eh bien,
Pascal Lepautremain.
Je crois que c'est partir avec l'idée que, avant tout, les gens, la population ou les populations, sans tomber dans le communautarisme, qui vivent en France, eh bien, embrassent un style de vie, un mode de vie qui est celui de la France, respectent les institutions, les lois et se considèrent citoyens français à part entière. Maintenant que certains musulmans aient des sensibilités forte à l'égard de ce qui se passe, par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, ça c'est tout à fait leur droit, mais de là à transposer ce problème strictement israélo-palestinien sur les problèmes de communauté musulmane, communauté juive en France, c'est fâcheux, et c'est détestable, et c'est à bannir, absolument. Donc je crois que on est dans cette logique-là. Il faut peut-être s'inspirer du modèle américain où, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a un formidable melting pot qui ne cesse de se creuser. En 2050, vous aurez quasiment la moitié de la population américaine qui sera composée de communautés hispaniques, chinoises, etc. Bon. Mais il y a quand même un ciment qui crée une espèce de cohésion. Alors certains pourraient la cataloguer d'artificielle, mais à travers ce patriotisme, à travers ces tests pour passer la citoyenneté, pour obtenir la citoyenneté américaine, connaître les fondements de l'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est peut-être des sources d'inspiration pour qu'en France on institue finalement une sorte de test pour bien faire comprendre que obtenir la citoyenneté française quand on vient de l'étranger, eh bien, ce n'est pas simplement un dû compte tenu des difficultés économiques et sociales mondiales. C'est aussi une qualité. On accepte une certaine façon de vivre, une certaine culture française. Et à partir de là, il y a possibilité de vivre en parfaite harmonie.
Mais alors là, Alain Besançon.
L'exemple américain, à mon avis, ne vaut absolument pas. L'exemple américain, d'abord, c'est un pays à 95% chrétiens, protestants ou catholiques, et 1 ou 2% juifs. Hein, et puis après ça, il y a des toutes petites minorités bouddhistes, etc. Et puis il y a une minorité islam, alors toute petite encore, je crois que ça fait 3 millions à peu près le nombre de musulmans aux États-Unis, et commence à poser des problèmes, en particulier à cause de la conversion de beaucoup de noirs dans les prisons à l'islam. Donc la comparaison avec l'Amérique ne vaut absolument pas. En France, encore une fois, la France a toujours été un très grand pays d'immigration. On a recueilli des millions de Belges, de Polonais, de Portugais, d'Espagnols, ça n'a pas fait la moindre histoire. Là, nous avons des populations musulmanes. Or, ce qui est justement spécifique, c'est l'islam. Et ça, c'est pour ça qu'il faut quand même bien savoir ce que c'est que l'islam et ne pas penser que c'est quelque chose comme les différences entre protestants et catholiques ou entre juifs et chrétiens ou entre bouddhistes et chrétiens. C'est tout à fait spécifique et c'est ça qui pose problème. Alors, les musulmans ont une perspective pour la France. Il y a des cartes de la France qui mettent la France dans la Oumma musulmane, qui considèrent que la France est un pays de mission musulmane. D'ailleurs, l'islam s'est toujours considéré comme une religion de mission. Et il y a un statut prévu pour les chrétiens, où ce qu'il en restera, c'est le statut de dhimmi. C'est-à-dire que c'est le statut des chrétiens en Égypte ou le statut des chrétiens en Syrie. C'est-à-dire c'est des citoyens de seconde zone qui ne sont pas massacrés, qui gardent leur vie et leurs biens, mais qui doivent payer une capitation particulière et qui sont exclus des emplois. Alors, je pense qu'il y a des musulmans qui ont cette perspective pour la France. Elle est encore éloignée. Je n'y crois pas pour l'instant. En tout cas, certains l'ont.
Vous n'y croyez pas, mais vous l'évoquez. En tout cas, c'est C'est sur ces mots que s'achève notre émission Éclairage consacré à l'islam en France. Merci à nos invités pour leur participation. Et j'espère, chers auditeurs, que cette émission vous aura éclairé sur la nature de l'islam, sa réalité plurielle face aux valeurs républicaines de notre pays.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.